BW. Droits et libertés.
Ce qu'on a appelé le printemps arabe a commencé le 17 décembre 2010 avec l'immolation d'un jeune vendeur ambulant à Sidi Bouzid, dans le centre de la Tunisie. Il voulait attirer l'attention sur sa misère sous la dictature de Ben Ali. Mohamed Bouazizi est devenu, sans l'avoir calculé, la figure emblématique d'un mouvement de fond qui a conduit d'abord à la chute de Ben Ali en janvier 2011. Mais cette réussite tunisienne a donné aussi du courage dans d'autres pays de la région au peuple de se soulever contre l'oppression. Nous retraçons cette semaine la chronologie d'une vague d'espoir. C'était il y a 10 ans, même s'il est vrai qu'elle est bien retombée depuis. Au micro, Sandrine Blanchard. Bonjour à tous. Après la Tunisie, l'Égypte. La révolution de 2011 a commencé le 25 janvier, c'était il y a 10 ans exactement. À cette date, la toute première manifestation est organisée au Caire. Une semaine avant, une certaine Asma Mahfouz avait lancé un appel vibrant qu'elle avait filmé avec son téléphone portable, puis posté sur Internet.
S'il nous reste un temps soit peu de dignité et que les gens veulent choisir comment ils veulent vivre dans notre pays, descendons le 25 janvier dans la rue pour réclamer nos droits.
Une vidéo qu'Asma Mahfouz publie sur Facebook et qui atteint en quelques jours des centaines de milliers de ses compatriotes. Âgée de 25 ans, économiste, Asma milite au sein du mouvement d'opposition du 6 avril. Parmi les autres figures de ce mouvement connu en Égypte, il y a l'ingénieur Ahmed Maher ou encore le blogueur Mohamed Adel qui était allé en Serbie pour préparer le mouvement social en Égypte auprès du mouvement Otpor de Belgrade. Otpor, et pardonnez la prononciation, ça signifie résistance en serbe. Ce groupe avait participé au renversement de Slobodan Milošević.
Là-bas, on m'a expliqué comment organiser une manifestation pacifique, comment on mobilise les gens en évitant la violence, et puis comment on réagit à la violence des forces de l'ordre.
Les militants Kerot se mettent alors à distribuer des tracts. Ils utilisent aussi les réseaux sociaux pour convaincre donc leurs concitoyens d'aller manifester. Et ça marche, puisque le 25 janvier, environ 25 000 personnes descendent dans la rue pour crier leur mécontentement face au régime autoritaire de Hosni Moubarak, qui paraît alors indéboulonnable. La plupart des premiers manifestants sont des jeunes, issus plutôt des classes moyennes, voire supérieures. Et ce n'est qu'au bout de 3 jours, lors du vendredi de la colère, qu'on peut vraiment parler de mouvement de masse en Égypte. Le 28 janvier, ils sont environ 100 000 Égyptiens et Égyptiennes dans la rue. Avant le rassemblement, les jeunes organisateurs du mouvement avaient envoyé de nombreux textos dans lesquels on pouvait lire « Rassemblez-vous devant les mosquées et les églises, formez des cortèges, renoncez aux signes religieux ». La police envoie des gaz lacrymogènes et pendant la course, pour se mettre à l'abri dans la foule, notre collègue Jürgen Striak demande à un manifestant s'il n'a pas peur des forces de l'ordre. Sa réponse, sans hésitation, « J'ai davantage peur pour mon pays que pour moi-même ». Un autre manifestant, un jeune ingénieur, se lance dans une comparaison historique.
On vit toujours comme au temps des pharaons, sauf qu'aujourd'hui, les esclaves se lèvent pour chasser les pharaons.
Lors de ce vendredi de la colère, on peut rencontrer des ouvriers, des artisans, des journaliers dans les cortèges. Ils viennent des quartiers pauvres et ils crient qu'ils en ont marre de leur misère. Des supporters ultra du club de foot populaire du Caire, Al-Ahli, se joignent aussi au mouvement, tout comme de plus en plus de membres des Frères musulmans qui étaient plutôt sur la réserve au début des manifestations. Or, sans l'apport des Frères musulmans et des supporters de foot, les manifestants de la place Tahrir n'auraient sans doute pas pu résister aux assauts violents des forces de l'ordre début février. Le 4 février 2011, l'ambiance est à la fête sur la place. Les manifestants ont installé un campement et commis leur révolution en cri pour la liberté. Hurriya.
J'aurais aimé te chanter d'éternelles histoires. Des soleils tombés, des lunes pleines, des nuits noires. Et sur le bord des lacs où dorment des songes brûlés. J'aurais posé sur ton front des brasiers. J'aurais aimé sculpter d'incroyables.
Des affiches, des œuvres et des performances artistiques, des musiciens, des comédiens s'emparent de l'espace de la place. Et quand les gens rentrent chez eux le soir, ils racontent à leur famille « Il faut que vous voyez ça, c'est dingue ce qui se passe ». Alors les gens sortent et affluent même par centaines de milliers sur la place Tahrir. Les enseignants y amènent même leurs élèves par classes entières. Et le 11 février, Hosni Moubarak quitte enfin le pouvoir. Et après la Tunisie et l'Égypte, le mouvement se propage par effet domino. À partir de la mi-mars 2011, les Syriens aussi commencent à protester. Des jeunes des classes moyennes, là encore, manifestent, là encore, contre le chômage et leur manque de perspectives. Ils réclament aussi davantage de liberté. La même année, en Libye, des mécontents, des oubliés manifestent. Le 20 octobre, Muammar Kadhafi est tué dans une intervention des armées britanniques et françaises. 3 jours plus tard, les habitants de Benghazi dans l'Est célèbrent toujours ce qu'ils considèrent alors comme une victoire et un espoir de jours meilleurs. Mustafa Abdeljalil préside alors le Conseil de transition. Il remercie tous ceux qui ont participé et tous ceux qui ont soutenu la révolution à leur manière, les hommes d'affaires, les journalistes, les responsables religieux et même les clubs sportifs. Il adresse aussi un remerciement tout particulier aux femmes. Voilà en résumé comment s'est déroulée cette année extraordinaire dans le monde arabe qui a été 2011. Au Yémen, dans les Émirats aussi, il y a eu des manifestations. Alors, bien sûr, les alliances scellées pour renverser les despotes n'ont pas tenu longtemps. Rapidement, elles ont de nouveau fait place aux rivalités. En Syrie, Bachar el-Assad est toujours au pouvoir et la guerre n'est pas finie avec des dizaines de milliers de morts ces dernières années. En Libye, la guerre civile n'a pas pu être empêchée, les pourparlers de paix sont difficiles. Au Yémen, pareil. En Égypte, l'armée a perpétré un putsch dès 2013 et a renversé le premier président élu démocratiquement. Et depuis 2011, dans tous ces pays, de nombreux militants et opposants, des acteurs pour certains des grandes manifestations d'il y a 10 ans, ont été emprisonnés, torturés, voire même exécutés. Mais en cette période de fête, entre les deux années, permettez-moi de vouloir terminer sur une note un petit peu plus positive, peut-être un peu nostalgique, mais en tout cas emplie d'espoir. Je vous raconte une petite anecdote. À la Deutsche Welle, la rédaction francophone a ses bureaux juste en dessous du programme arabe. Et en 2011, on entendait nos collègues crier de joie ou d'étonnement au fil des événements si incongrus qui ont jalonné cette année-là. Et la chute de Hosni Moubarak, par exemple, dans mon souvenir, c'est d'abord une clameur de « Hourra » venue des bureaux de l'étage du dessus.
C'est vrai que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre pourquoi j'y crois et que j'insiste. Mais je vais te dire pourquoi j'y crois. Pourquoi j'y crois? Avant c'était la Rhodésie. Un peu plus tard, Bob chantait Zimbabwe. Je suis allé dans la Tunisie. Un immolé a pu les libérer. Pourquoi j'y crois? Je suis allé dans le Dahomey. Un peu plus tard, c'était devenu le Bénin. La liberté, c'était le rêve des illuminés. Et puis le rêve vit le jour, c'était dans nos mains. Au Sénégal, j'ai vu le changement.
C'est la fin de ce magazine Droits et Libertés. Merci à Jörg Striak pour les sons. N'hésitez pas à vous abonner pour une baladodiffusion sur dw.com/français. Pour cela, allez dans la rubrique « Nos podcasts », c'est tout en bas de la page d'accueil. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.
Jamais. Pourquoi j'y crois, y'a la foi chez nos paysans. On peut venir de la terre, finir président. J'ai vu chez moi le chanteur presque illettré. Parler français, anglais, ministre et PDG. Moi j'y crois, on est riche, on est beau. Regarde la nature qui nous fait tellement de cadeaux. Ce continent c'est un scandale de richesse. Avec en plus l'énergie de la jeunesse. J'ai vu des jeunes number one dans les affaires. Partis de rien, aujourd'hui on les dit millionnaires. Ils y arrivent clean sans pour autant voler. Cherche tes ailes, toi aussi tu pourras voler. Go.